18h02, Boucard Diouf s'en vient tantôt dans quelques minutes pour nous parler des 10 ans de ce moment absolument formidable, un moment qui est devenu viral il y a 10 ans. C'est le moment de la palourde royale à l'époque où il co-animait l'émission des Kiwis et des Hommes. Donc, le sympathique Boucard va être avec nous. Je t'entends un petit peu rire, Paul-Oud. D'abord, bonsoir.
Salut.
Est-ce que tu te souviens de ce moment-là?
Bien, évidemment. Écoute, je l'ai vu, je sais pas combien de fois, sur YouTube. C'est encore là, d'ailleurs.
Bien sûr.
Ouais.
Les gens peuvent taper palourde royale. Mm-hmm. Et là, il y a peut-être des enfants à l'écoute, fait que je vais pas raconter, le malentendu dans ce moment-là. Mais c'est très, très drôle. Paul, ouais. Avant qu'on commence ton tour d'horizon de la COVID avec l'expérience suédoise, écoute, on va prendre un pas de côté et on va, je veux te faire écouter un extrait d'une entrevue de Joe Biden, le candidat démocrate à la présidence. Beaucoup de gens qui disent que M. Biden, malheureusement, en perd des bouts. Écoute bien l'extrait d'entrevue qu'il a donné à CNBC cet après-midi.
I'm prepared to say that I have a record of over 40 years and that I'm going to beat Joe Biden.
Il va se battre lui-même.
On va le réécouter juste pour être sûr. Au début, là, juste pour situer les gens, il dit, écoutez, moi, là, j'ai un bilan de 40 années, je vais faire campagne là-dessus. Et écoutez bien la suite.
I'm prepared to say that I have a record of over 40 years and that I'm going to beat Joe Biden.
Paul, on peut dire que c'est juste un lapsus, on en fait tous, OK? Tu fais du direct, je fais du direct. Le problème avec M. Biden, c'est que plus il parle, plus il multiplie les bourdes et les phrases incompréhensibles aussi.
Oui, et c'est peut-être révélateur ce qu'il dit, qu'il va se battre lui-même.
Okay.
C'est peut-être révélateur.
C'est vraiment un lapsus, là. Il veut pas gagner.
C'est possible. Il a fait campagne sans dire un mot à l'extérieur. Je parle pendant la pandémie, là.
Mais ce qui est pas une stratégie bête, parce que pendant que tu dis rien, ton adversaire s'enfonce, tu sais.
Ouais, on verra.
OK. Bon, revenons à ton tour d'horizon, Paul. Pour premier sujet à ce vendredi, parle-nous de l'expérience de la Suède. On va faire le point.
Oui, on est le 22 mai, donc ça fait deux mois et demi à peu près. Et là, il est grandement temps de faire le point sur l'expérience de la Suède, pays de 10 millions d'habitants. Je te rappelle, Patrick, qu'ils ont traversé la pandémie en gardant ouverts les cafés, les bars, les restaurants, les écoles. Ils ont envoyé presque tout le monde possible en télétravail et ils ne sont fortement déconseillés que les rassemblements de 50 personnes soient, disons, des 50 personnes et plus, soient interdits. Donc, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont adopté une stratégie de défensive, passive un peu. Mais le docteur Arruda de Suède, Anders Tegnell, il est adulé par la population. Ça, c'est l'épidémiologiste en chef, le directeur de l'Agence de santé publique, et tout le monde l'adore. Et il a la pleine confiance du premier ministre, Stefan Löfven. Et qu'est-ce que ça donne maintenant? On est en mesure d'avoir quelques observations. Fin avril, cette stratégie, il y avait seulement 7,5% de la population testée qui avait développé des anticorps, donc une sorte d'immunité. Selon M. Tegnell, aujourd'hui, 22 mai, on est à peu près à 20% de la population qui a été directement exposée au coronavirus, donc à peu près un cinquième de la population. Mais là, maintenant, il faut regarder les chiffres. Alors, les chiffres, en Suède, grosso modo, ce soir, c'est 4000 décès pour un total d'à peu près 33 000 cas positifs dans une population de 10 millions. Je vais te ramener ça à une comparaison avec le Québec. La Suède, c'est 38 décès par 100 000 habitants et le Québec, c'est 45 décès par 100 000 habitants. Si on regarde juste ce rapport, la Suède performe mieux que le Québec. Mais par contre, c'est plus élevé que la Finlande et la Norvège qui, les deux pays, ont confiné tout le monde dès le milieu du mois de mars.
Et là, tu soulignes quelque chose d'intéressant parce que les voisins de la Suède ont confiné, ils ont un meilleur bilan. Puis, Paul, je commence à me demander s'il n'y a pas des particularités géographiques, régionales. Tu sais, l'ouest du continent, la Colombie-Britannique a un bon bilan, mais aussi la Californie a un bon bilan. Tu sais, c'est ce que j'expliquais tantôt, je discutais de ça avec Philippe Quentin. peut-être qu'il y a des flux de voyages aussi qui sont particuliers puis qui n'ont pas aidé, par exemple, des particularités comme ça. Parce que si, oui, la Suède, si on se compare au Québec, a continué à vivre alors que nous, on s'est mis sur pause. Mais tu regardes les voisins, les Suédois font pas bonne figure.
Non, c'est-à-dire non. Parce que si tu compares avec le Danemark également, au Danemark, tout est repris, mais ils ont un bien meilleur bilan en termes de décès par 100 000 habitants que la Suède. La Finlande, c'est la même chose, et la Norvège aussi, c'est la même chose. Ce qui est intéressant dans l'observation suédoise 2 mois et demi plus tard, c'est que les résidences pour aînés constituent le même problème qu'ailleurs. La moitié au moins des quelques 4 000 décès sont survenus dans des maisons de soins pour aînés en Suède aussi. On n'a pas été capable non plus de faire face à ce problème. L'autre problème actuellement, pour avoir une meilleure perspective, c'est que les autorités s'étaient fixées le mois dernier un objectif ambitieux de 100 000 tests par semaine. Ils n'y sont pas encore arrivés. Il y a encore des ratés. Voilà. Alors donc, et puis ce qui est intéressant, c'est que ce sont pas les personnes les plus âgées qui test le plus positif en ce moment, ce sont les personnes dans le groupe d'âge de 20 à 64. Tu vas me dire que c'est large, mais oui, c'est pas nécessairement les 65 ans et plus en Suède là qui représentent les nouveaux cas.
Puis on se fait pas d'illusions là-bas. Là. On pense qu'on en a pour maximum au moins 18 mois, peut-être 2 ans là, à vivre avec.
Oui. Et c'est exactement ce qu'a dit M. Tegnell. Je te rappelle que le docteur Arruda de Suède, Anders Tegnell, il est adulé. Je dis, les gens l'adorent en général.
Autant qu'on adore Horatio?
Oh oui, j'imagine, oui, dans les sondages. Horatio, toi, est assez élevé. On l'a vu dans le sondage d'il y a 2 semaines, là, à qui profitait, entre guillemets, bien sûr, la pandémie. Il a dit, on en a pour 18 mois à 2 ans à avoir le coronavirus dans notre environnement. Il a pas dit, on va avoir une deuxième vague, une troisième vague, ça va repartir, on va tout arrêter. Non, il a dit, ça va faire partie de la vie pour au moins 2 ans.
OK, voilà. Parle-moi des États-Unis, c'est un gros test en fin de semaine pour eux. Pourquoi?
Écoute, le dernier week-end de mai, là, le week-end du Memorial Day aux États-Unis, c'est le lancement officiel de l'été dans les 50 États. Et habituellement, c'est le week-end du Indianapolis 500, la course automobile. Alors, ça se clôture toujours par le Indy 500, qui cette année a été reporté au 23 août. Qu'est-ce que ça veut dire? Les plages, habituellement, lors du Memorial Day week-end, sont bondées. Les hôtels, les campings. Il n'y a pas moyen d'avoir une place de camping si t'as pas réservé des mois à l'avance. Les gens attendent en ligne au restaurant. Mais là, je te pose la question, quel genre de Memorial Day week-end les Américains vont connaître en pandémie? Il y a des petites choses qui vont changer en fin de semaine.
Ça dépend des États, je pense. Il y en a qui sont moins disciplinés que d'autres.
Oui, c'est vrai. En Géorgie, on a ouvert les plages très rapidement, dès le mois de mars. En Floride, c'est un peu la même chose. C'est pas toutes les plages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce week-end que vivent les Américains? Barbecue, pique-nique, plage. Mais il va y avoir des petites distinctions. La plupart des États ont banni les concerts, les sports d'équipe sur la plage, comme le traditionnel volleyball de plage. Les feux d'artifice également sont interdits. Les restaurants n'ont pas de place assise en bord de mer, dans les salles à manger, mais plutôt en take-out, si passe l'expression. Les parcs d'amusement sont fermés. Tu peux pas aller à Coney Island, par exemple, le célèbre parc d'amusement. Et les centres pour visiteurs également sont fermés. Donc, on va tenter de faire respecter une distanciation, mais je te dis tout de suite que tous les réseaux américains, même les nôtres, vont tourner les caméras vers les États-Unis toute la fin de semaine parce que c'est le week-end le plus important, celui qui marque le début de l'été.
Mais c'est comme si... as-tu l'impression qu'aux États-Unis, la vie se poursuit quand même? Selon les États, là, tu regardes, il y a des places où, écoute, ça n'a pas tant frappé que ça non plus.
Tu as raison, mais il y a des États comme le Utah. Il faut dire que la densité de population était pas très grande dans le Utah. C'est un immense État, magnifique, avec des parcs nationaux à couper le souffle. Tout aussi beau d'ailleurs que le Grand Canyon.
Je suis allé à Zion il y a 2 ans.
Zion,
Mon Dieu.
C'est ça. Et le magnifique parc des Arches. The Arches National Park. Mais la densité de population n'est pas très grande. Et qu'est-ce qu'on apprend encore de cette pandémie? C'est que plus on a d'espace, donc distanciation naturelle, moins le coronavirus peut se transmettre. Alors donc, en fin de semaine, tu vas avoir des États qui vont être plus surveillés que d'autres, mais j'ai bien hâte de voir ça parce qu'on va être inondé d'images du fameux week-end de la fin de semaine du Memorial Day aux États-Unis.
OK, parfait. Parle-moi maintenant de Donald Trump. Hein. Donald Trump est allé visiter une usine de... Est-ce que c'était Ford, Paul? Oui, c'était Ford.
Oui.
Et Ford avait dit, écoutez, quiconque vient ici, incluant les gens de la Maison-Blanche, devra porter un masque. Monsieur Trump n'a pas porté de masque, mais il y a quand même une photo qui circule de lui avec un masque.
Je te l'ai envoyé. Est-ce que tu l'as devant
toi? Oui.
Bon, c'est probablement peut-être la seule photo où on voit le président des États-Unis, Donald Trump, porter un masque. Il n'avait pas le choix. En entrant à l'usine de Ford, grosse usine hein, à Ypsilanti, au Michigan, il a été obligé de porter le masque toute sa visite. Mais chaque fois qu'il était confronté à des caméras de presse, il enlevait le masque juste avant.
Pourquoi C'est-à-dire, tu penses? Pourquoi il refuse de porter le masque?
Parce qu'il en a fait une affaire politique, une affaire personnelle. Le masque, là, il a transformé ça, non pas en un débat en disant « Devrions-nous le porter seulement dans les transports en commun? Est-ce qu'on devrait faire attention quand on va dans un endroit où il y a plus de gens? » Non! Dès le départ, c'était la séparation entre ceux qui n'ont pas besoin de masque, qui ne veulent pas en porter, pour une affirmation politique. Et dans plusieurs États, Patrick, c'est déjà la différence entre ceux qui le portent et ceux qui ne le portent pas.
Paul, je sais pas si tu as vu, il y a des vidéos, là, j'ai vu un montage vidéo là, des Américains de partout au pays qui, en bon français, pètent des gasquettes, là, se fâchent dans des lieux publics parce qu'ils arrivent pour rentrer dans un magasin et on leur dit « Vous n'avez pas de masque, vous ne pouvez pas rentrer. »
Ouais.
L'exemple vient d'en haut. Puis pour certains Américains, là, c'est un signe de liberté de ne pas porter de masque.
Oui, et tu sais qu'il y a eu au moins 2 ou 3 morts de gens, des gardiens de sécurité, des pauvres gardiens de sécurité qui faisaient leur travail et qui voulaient soit interdire l'accès, par exemple, à un magasin, à quelqu'un qui ne portait pas le masque, mais il y a eu au moins 2 ou 3 morts des gens qui se sont fait tirer dessus alors qu'ils exerçaient simplement leur autorité, entre guillemets, mais avec un petit A. Il y a eu ceux qui sont allés manifester directement dans les marches de Capitole, dans les capitales, si tu veux, des États, dont le Michigan, à Lansing. Et évidemment, aux États-Unis, la confrontation, elle n'est pas que verbale. C'est pas la petite confrontation que tu vas avoir à ton supermarché, par exemple, si tu te fais regarder de travers, ou si quelqu'un a la mèche courte. Il y en a pas mal ici qui ont la mèche courte. Je peux te le dire. Moi, j'ai été témoin de 3 scènes. 3 scènes.
Vas-y, raconte.
Ben non, c'était au supermarché, moi, je veux plus. Je délègue. Je délègue ma femme, je veux plus y aller. Mais je t'ai pas impliqué là-dedans. Mais ce sont des gens qui ont perdu patience, qui se sont mis à crier. Bon. Alors, déjà, l'agression verbale, c'est déjà stressant, OK? Puis dans une des 3 agressions verbales, ils ont été obligés d'appeler la police. Eh bien, moi, j'ai pas le goût d'aller m'acheter du beurre ou des céréales dans un contexte semblable.
Donc, tu délègues Mme Hood?
Je la délègue, elle a plus de courage que moi. Non, c'est parce que je suis très, très, très intolérant à ce genre de situation. Une personne devient irrationnelle, se met à crier. Puis là, écoute, je te dis, une fois, elle est obligée d'appeler la police. Mais la grosse différence, Patrick, par rapport à la même frustration entre des masqués ou non masqués aux États-Unis, c'est qu'il y a présence de beaucoup plus d'armes à feu chez nos voisins du Sud. Tu ne sais jamais quand quelqu'un va dégainer.
Et là, tu touches à quelque chose, Paul. Ici, généralement, là, tu chicanes pour une place de parking dans le stationnement d'un centre d'achat. Peut-être qu'on peut en venir au coup, mettons. Mais généralement, il n'y a pas de magnum dans le coffre à gants.
Disons que les statistiques favorisent nos arguments verbaux ou encore le majeur qu'on sort. Il y a beaucoup de majeurs qui sortent quand il y a une perte de contrôle. Mais heureusement, et c'est prouvé statistiquement, il y a beaucoup moins d'armes à feu en circulation qu'au Texas ou au Michigan, par exemple.
Ça fait moins de dommages quand on a un désaccord. Merci et beaucoup, Paul.
Et j'espère que tout le monde va pouvoir respirer par le nez et devenir plus zen avec ce merveilleux week-end qu'on va avoir. Nous, on va le couvrir en direct pour voir comment ça se passe dans les rassemblements.
De 7h à midi, samedi et dimanche.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il y a au menu?
Alors, on va déléguer. Sabrina Rivet, pour qu'elle aille voir dans le parc Laurier et dans le parc La Fontaine comment ce week-end extraordinaire va se faire. Mais on n'ose pas l'envoyer dans une cour arrière pour savoir combien il va y avoir de familles réunies à raison de moins de 10 membres. On n'est pas rendu à aller espionner jusque-là.
Mais sais-tu ce que j'ai vu sur Radio-Canada tantôt? Tu sais, la fameuse recommandation d'un maximum de 3 ménages, 3 familles?
Oui.
Bien, dans le décret officiel, c'est juste une recommandation. C'est plus là.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, ça veut dire que, officiellement, tu peux être moins de 10, mais si tu veux avoir 5-6 ménages différents, c'est correct.
Ça n'avait pas
été dit dans le point de presse.
Mais ça va peut-être éviter des chicanes de famille, parce que ceux qui ne sont pas invités à ton barbecue en fin de semaine risquent d'être frustrés.
Oui, il y a des gens qui ont rencontré leur modestie, comme disait Jean-Lapierre.
Mettons.
Merci, Paul.
Bon week-end.
Bon week-end. 18h18.